Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous en ce début de semaine dans Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous suivre aussi en images avec le Facebook Live. Soyez au rendez-vous et si vous aimez, eh bien partagez puisque ça se partage le Facebook Live. Aujourd'hui, nous évoquerons la belle finale qui se profile, la finale de la CAN. Ce sera Sénégal-Algérie après deux demi-finales au scénario renversant. Les Lions de la Teranga sont venus à bout des Aigles de Carthage et cette qualification, 17 ans après la seule finale de 2002, a provoqué bien des scènes de joie au pays. Dakar en ébullition hier soir. Et nous irons du côté du Sénégal. Alors que les Tunisiens se désolaient après un pénalty sifflé et annulé qui aurait pu les satisfaire, nous reviendrons aussi sur ce fait de jeu. Les Fenecs au rendez-vous de la finale, les Algériens qui sont devenus des favoris au fil de la compétition ont confirmé en battant les Super Eagles du Nigeria grâce à un geste somptueux de Riyad Mahrez. Le peuple algérien était en fête à Alger alors qu'en France, la joie démonstrative était émaillé et de scènes de violence. Enfin, nous ferons un petit tour du côté de Saint-Germain-en-Laye, du côté du Camp des Loges où Neymar est là. Ce matin, comme elle l'avait promis, la star brésilienne du PSG était à l'entraînement. Mais les polémiques qui entourent Neymar et ses désirs d'ailleurs ne faiblissent pas. Mais pour l'instant, nous allons parler CAN avec nos spécialistes qui sont là. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes content?
Bah écoutez, il reste un match.
Il est sur la retenue. Non mais on voit quand même votre visage un peu souriant quand même. Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie Gasnier, vous allez bien?
Vous êtes déjà sous les palmiers?
Absolument.
Non, sur les palmiers.
Dans ma tête, je suis en vacances depuis très longtemps.
Bah, merci d'être là pendant vos vacances alors.
C'est un plaisir Annie.
Oh, c'est toujours un plaisir de vous avoir là. Et puis Gilles Verdez, bonjour Gilles.
Bonjour.
Bon, vous vous êtes un peu soulagé?
Très content.
Très content. Carte sur table avec Gilles. Radio Foot, c'est parti.
Attention, ne pas tergiverser. Le ballon dans la reprise, c'est contré. Penalty.
Le ballon est contré de la main, effectivement, sur cette frappe tunisienne. Tout le monde est en place. Alfred Gomis, les pieds sur la ligne. Ferjani Sassi qui trottine, qui frappe. Et
le gardien.
L'arrêt d'Alfred Gomis qui est parti du bon côté.
Et attention, c'est décalé. Ce ballon. Penalty.
Penalty pour le Sénégalais. Penalty pour le Sénégalais.
L'ancien joueur de Bordeaux qui s'élance et c'est un récupéré de sa tête.
La parade de Moisassé qui est parti à son tour du bon côté, 5 minutes après le pénalty, arrêté par Alfred Gomis et Moisassé.
Attention, c'est parti.
Ah oui.
Attention,
ah,
la sortie se trouve.
Et le but. Voilà le but. C'est décalé.
Et but, le gardien.
Tiré d'étoile de Moisassé.
Et celui-là, il est bon. Une sortie complètement manquée de Moisassé qui a voulu s'emparer du ballon ou le boxer en tout cas.
Freddy, 3 mètres d'élan, c'est parti pour la dévier.
Oh, il y a une mimine là, il y a une mimine.
Pénalty.
Il y a une mimine. Il a pas sifflé.
Il a sifflé.
Il a sifflé, il a pas tendu le bras.
Il a sifflé.
Mais est-ce qu'il a tendu le bras?
Oui, il a sifflé, c'est pour ça que les Sénégalais discutent, il n'y a rien à dire.
Il n'y a pas de pénalty, c'est n'importe quoi.
Non,
c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe
il
quoi.
Il annule le pénalty.
Mais qu'est-ce que ça
il
veut dire?
Il annule.
Mais on l'a bien vu la main à la télévision. Enfin bon, s'il n'y a pas pénalty là, il n'y avait pas pénalty tout à l'heure avec Koulibaly. Et c'est fini. Le Sénégal est en finale de la CAN 2019. 1-0, c'est le score final.
Frédéric Suto, Eric Mamrut et Joseph-Antoine Bell vous ont donc fait vivre hier cette première demi-finale. Un match fou, un scénario fou, des faits de jeu fou, vous l'avez entendu, et sur lesquels nous allons revenir. Mais au final, la joie des Sénégalais, joie et soulagement d'avoir atteint la finale après la courte victoire contre la Tunisie 1-0. Dans les tribunes, peu de spectateurs, mais un groupe de supporters fous de joie. Au micro et à la caméra de notre envoyé spécial Dominique Fion. Ceux qui nous regardent d'ailleurs en Facebook Live peuvent voir les images.
Vraiment, on est passé par beaucoup d'émotions, hein. Le pénalty raté de part et d'autre.
après le dernier penalty où l'arbitre a été obligé d'aller consulter le VAR, vraiment, c'était les émotions. Mais je remercie, alhamdoulilah, on a pu gagner. C'est ça l'essentiel, on est vraiment content, on est très heureux ce soir. On va fêter jusqu'à la finale, Inch'Allah. On va ramener la coupe à Dakar.
Senegal, so de Medina weto. Senegal, so de Medina weto. Weto, weto.
Et oui, il y avait du monde pour encourager les Sénégalais, enfin leur petit groupe de supporters, parce que les stades d'Égypte restent désespérément creux, peut-on dire. Alors là où la joie évidemment fut plus grande et intense, c'est à Dakar, au milieu des Sénégalais, il devait se voir, un de nos correspondants, et c'est Guillaume Thibault qui était au milieu des Sénégalais, au centre de Dakar. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Alors Guillaume, racontez-nous, parce que vous y étiez dans cette ambiance exceptionnelle. J'imagine que depuis que vous êtes en poste, vous n'aviez jamais vu ça dans Dakar.
Exactement, on était tous place de la Nation, où il y avait sans doute plus de supporters que dans les stades en Égypte. Ça semble presque évident. Quelle liesse au coup de sifflet final. Ça a été vraiment une libération ici à Dakar, un soulagement parce qu'il y a eu du stress. On l'a entendu là dans les petits extraits que vous avez diffusés. Et Dakar a tremblé. Une vague de bonheur qui a saisi la capitale, qui s'est propagée partout. Tout le monde est sorti dans tous les quartiers, toutes générations confondues. On a dansé, on a chanté, on a célébré longuement cette victoire. On a bloqué les rues, hein. Vous connaissez le topo, les ronds-points bloqués, les drapeaux sur les toits des maisons, des voitures, les concerts de klaxons, les percussions, tout ce qui va avec. Vous l'avez dit, j'ai la chance de couvrir l'actualité au Sénégal depuis 4 ans. C'est la première fois que je vois de telles scènes. Un peuple uni par le sport, par le football, une joie collective qui, il faut le dire, nous a donné beaucoup de frissons.
Oui, j'imagine qu'en 2002, et notamment Olivier Rogier, qui était l'aventure de la Coupe du Monde, et aussi après l'aventure de la CAN, avait dû lui rappeler bien des souvenirs. En tout cas, il y avait une ambiance folle, vous avez promené votre micro, et on écoute tous ces Sénégalais heureux de la victoire contre la Tunisie.
On est très content d'avoir gagné le match contre Tunisie. Le Sénégal, bravo, bravo les Lions, bravo.
C'est bon, mesdames.
On est tellement heureuses. On veut prendre la coupe. Oui, oui. Cette coupe, c'est à nous. 2019, cette coupe, c'est à nous.
Quel message vous passez au Lyon?
Le message au Lyon, je demande au Lyon vraiment d'encore doubler d'efforts et d'engagement et d'agressivité encore et d'efficacité. Et Inch'Allah, ça ira.
On est tous fiers. On est tous fiers de l'équipe, de l'entraîneur, des joueurs. Maintenant, il reste la finale. Inch'Allah, on va ramener la coupe au Sénégal. Et à Dakar, on fera la fête. Vive le Sénégal, vive la Nation.
Sénégal !
Ce qu'on peut dire à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, Guillaume, c'est que non seulement vous faites le son, mais aussi vous faites l'image et des photos magnifiques de ce que vous avez vu et vécu hier dans Dakar et qui sont à voir sur le Facebook Live, mais aussi évidemment sur notre page Facebook de Radio Foot. Alors Guillaume, racontez-nous, lendemain de fête, qu'est-ce qu'on fait à Dakar et qu'est-ce qu'on va faire au Sénégal jusqu'à vendredi ?
Alors la fête s'est prolongée jusque tard cette nuit et ce matin tout le monde est reparti au travail avec je sais pas comment dire cette petite pointe de joie qui reste ancrée dans le cœur quand on vit des grands moments comme ça.
Il avec faut le dire, maillot Annie, sur les épaules, non
sens...
Avec le maillot.
Exactement. Tout le monde. Il y a obligation aujourd'hui de porter le maillot des Lions. Celui qui n'a pas son maillot est en retard et va se faire chicoter par ses cousins et ses parents. Et il faut le dire, par contre, toute cette effervescence s'est estompée ce matin vers 11h lorsque l'on a appris la disparition d'Ousmane Tanor Diagne, 72 ans, secrétaire général du PS, homme d'État ici au Sénégal. La vie politique a repris ses droits, elle va les reprendre pendant quelques jours puisque la dépouille d'Ousmane Tanor Diagne doit être rapatriée de France. Macky Sall a parlé d'une perte immense pour le Sénégal. Je suis certain que les Lions, où ils sont, ont eu vent de cette disparition et qu'ils tenteront à leur manière de rendre hommage à Ousmane Tanor Diagne. Comment ? En ramenant cette coupe au pays.
Alors, les Sénégalais, dernière question qui était autour de vous hier. Est-ce qu'ils sont confiants ou est-ce qu'ils ont quand même un peu peur de cette perspective de ce match entre le Sénégal et l'Algérie ?
Vous l'avez entendu, c'était le soulagement hier, la joie, mais des cris de soulagement, comme si c'était un accouchement difficile. Quand on regarde les matchs, quart de finale, demi-finale, le public, les supporters, il y a beaucoup de souffrance parce qu'ils croient en leur équipe et il y a toujours des moments où ils ont des doutes, ils ont un manque de confiance dans cette équipe. Il y a autant de Sénégalais que de sélectionneurs. Alors les joueurs comme Aliou Cissé ont la pression. Et quand on regarde un match en direct à Dakar sur une grande place comme la place de la Nation, on a peur, on a tout le temps peur. Il y a eu des rebondissements hier. Donc cette confiance, elle sera difficile à avoir vendredi. Ce que disent les supporters, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il faut ramener cette coupe aujourd'hui. Le Sénégal la veut, les Sénégalais la veulent. Et si les Lions ne la ramènent pas, je ne sais pas s'il faudra repasser par la case Dakar. Mais en tout cas, tout le monde y croit.
En tout cas, Guillaume, vous pouvez leur chanter un certain refrain qu'on chantait il y a exactement un an ici en France qui s'appelle « Ramener la coupe à la maison ». Peut-être que ça pourrait faire un tube du côté de Dakar ces jours-ci. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été en direct de Radio Foot. À très bientôt, donc. On verra ça vendredi, n'est-ce pas?
À vendredi.
Bien sûr.
On se retrouve, bien évidemment, avant le match, pendant le match, après le match, quand vous voulez.
D'accord. Merci, Guillaume. Alors, il le disait, notre camarade, c'est vrai qu'il y a de la pression, il y a de la tension aussi. Et est-ce que tout ça est rationnel? Peut-être pas. Écoutons Aliou Cissé avant de commencer notre débat. Aliou Cissé, le sélectionneur des Sénégalais, pour qui le football est sûrement plus grand que tout schéma tactique.
Ils ont su rentrer mieux que nous dans cette début de deuxième période. Ils auraient pu marquer et d'ailleurs ils ont le penalty. Mais comme je dis, c'est aussi ça le football. Dans les temps forts, quand vous avez vos temps forts et que vous marquez pas, vous savez très bien qu'à un moment donné vous êtes vulnérable. Donc c'est le football. Je crois que c'est surtout ça le charme du football, cette excitation, c'est indécis, vous ne maîtrisez rien du tout à un moment donné. Il ne s'agit plus de tactique, il ne s'agit plus de technique, ce sont des hommes à un moment donné qui sont sur le terrain. Ce match d'aujourd'hui a été un match quand même incroyable. Je crois que ça restera dans les annales du football africain.
Ça restera dans les annales du football africain, Gilles. On viendra après en détail à certains faits de jeu, mais pour ce qui est de l'ensemble et de la victoire du Sénégal 1-0 et de la qualification surtout.
Il y a une part d'irrationnel, forcément. Il y a ces histoires de pénalty, il y a une dramaturgie qui dépasse effectivement les schémas. Ça dépasse même les hommes. Il y a une sorte d'allégresse ou de désespoir selon qu'on gagne ou qu'on perdent, qui fait que le football c'est le sport roi parce que ça donne des émotions incommensurables et qui sont indescriptibles quand on voit ce match parce qu'il termine à 1-0 mais tout autre score aurait presque été valable.
Franck, cette rencontre entre le Sénégal et la Tunisie, c'est vrai que ça a été longtemps hésitant. On a bien cru qu'on arriverait au tir au but et que ça serait presque un peu le hasard qui ferait le destin d'une de ces deux équipes. Et finalement, est-ce que c'était une victoire logique pour vous du Sénégal?
Ça a été un accouchement difficile, pour reprendre les propos de votre correspondant à Dakar. Mais c'était un match très agréable à suivre. Il s'est passé plein de choses, alors que c'est vrai que la Tunisie a vraiment pas beaucoup impressionné jusqu'à présent, peut-être un peu en quart de finale. Mais là, dans cette demi-finale, on a vraiment vibré, quoi, en fait. Hein. Après, sur le plan du jeu, c'était franchement le bazar. On avait une équipe sénégalaise qui marchait à côté de ses pompes. Après, qui a toujours des joueurs de classe mondiale. On va pas contester l'envie, si vous voulez, l'envie, la motivation d'aller jusqu'en finale et remporter le titre. Mais ça ressemblait pas, en fait, à ce qu'on est en droit d'attendre des Lions de la Teranga. Et c'est vrai que ils ont les ingrédients pour pouvoir le faire, mais à côté de ça, ils ratent beaucoup, beaucoup d'occasions. En fait, ils se sont mis eux-mêmes en difficulté. La Tunisie, en première période, a la tête sous l'eau totalement. Et en fait, c'est par leur raté, par le fait qu'ils aient été si longtemps brouillons, qu'ils ont permis à la Tunisie, si vous voulez, de sortir la tête de l'eau, d'y croire un petit peu. Et ça a donné cette seconde période, puis la prolongation. Ça a été franchement super intéressant. Mais c'était pas du grand Sénégal. Et d'ailleurs, les joueurs, à la fin du match, le reconnaissent eux-mêmes. L'essentiel pour eux, c'était de se qualifier pour la finale. Ils y sont parvenus. Mais bon, on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé. Ça n'a pas été simple.
Avant qu'on revienne sur tous ces pénaltys, peut-être Nabil, que le but illustre ce que dit Franck, c'est-à-dire cette domination des uns puis des autres, et qui fait que le but finalement, c'est sur un corner du Sénégal, mais c'est avec un ballon détourné, un ballon détourné d'un défenseur adverse.
Oui, vous parliez de part d'irrationnel, oui, sur le coup, effectivement, il y a une part d'irrationnel sur cette situation mal appréhendée par la défense tunisienne, notamment le défenseur, et surtout l'infortuné Mouez Hassen. pour le coup. Très sincèrement, en fait, le Sénégal, c'est une équipe qui est un peu frustrante dans le sens où, comme dit Franck, elle a le matos, elle a les ingrédients pour avoir une expression collective bien plus importante. On a le sentiment que c'est une équipe qui est arrivée là presque sans forcer. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais on sent que c'est une équipe qui a de la marge. Alors que de l'autre côté, on en parlera peut-être un peu après, les Algériens, si ils se mettaient au niveau des Sénégalais en termes d'expression collective, ils seraient pas là. Parce que je pense que les Sénégalais, c'est un peu comme l'équipe de France par certains aspects, ils ont un talent intrinsèque qui est supérieur. Aujourd'hui, parce qu'ils ont des joueurs individuellement qui jouent dans des top clubs. Alors il y en a un qui sera pas là en finale, mais on en parlera aussi, c'est Koulibaly. Mais c'est pour moi un peu un Sénégal minimum syndical en termes de football. Après, franchement, entre nous, ils n'en ont rien à cirer d'être le Brésil de l'Afrique. Là, c'est la dictature des résultats. On rappelle quand même que c'est un pays qui n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le seul objectif et c'est le seul qui compte.
Je trouve quand même que mes collègues sont extrêmement critiques, voire virulents, même si leur phrase est assez uniforme. Ben, votre phrase est uniforme, mais vos mots sont durs.
On a été bien parce plus virulents avec la Côte d'Ivoire avant le match de l'Algérie.
Mais parce que quand même, le Sénégal est en finale. Je ne voudrais pas que vous l'oubliez. Le Sénégal est en finale. Pourquoi ?
Mais leur victoire vous a convaincu, Gilles ?
Non, c'est leur trajet qui me convainc. Parce que qu'est-ce qu'on a reproché au Sénégal depuis toutes ces années ? C'est justement des individualités qui oubliaient que le football est un sport collectif, qui oubliaient l'état d'esprit et qui, dans le lion de la Teranga, ne retenaient que la Teranga tellement ils étaient inoffensifs. Et ben là, ils ont pris le côté lion, ils ont planté leurs griffes, ils ont battu les adversaires, parfois dans la difficulté, ils ont été battus par l'Algérie, ils se sont remis, et cette force mentale, je suis désolé, c'est elle qui forge les succès aujourd'hui. L'Algérie est portée par son beau football, son allégresse, le Sénégal incarne des forces mentales qui, moi, me séduisent, parce que pendant des décennies presque, on a dit du Sénégal, mais battez-vous. Ben là, ils se battent.
Franck ?
J'entends bien la poésie des mots de Gilles Verdès et je comprends que son cœur puisse battre pour cette équipe du Sénégal, mais il ne faut pas s'extirper de ce qu'on a vu hier. Sur le parcours, et Nabil l'a rappelé à l'instant, sur leur parcours, ils méritent d'être présents, Gilles. C'est une évidence, mais c'est du minimal, c'est du minimaliste, quoi. Quand tu as autant de super joueurs, je suis désolé, on attend beaucoup plus collectivement. Ce que réussit l'Algérie en vérité ? L'Algérie, on voit bien que il y a à la fois ce que tu dis, c'est-à-dire les vertus d'aller chercher, de puiser, voilà,
mental,
la navigation, le mental. Et ils ont ça en commun. Cœur, et je pense que c'est aussi des valeurs partagées par leurs sélectionneurs respectifs. Mais sur le plan du jeu, tu peux quand même nous accorder et nous permettre de dire que sur ce qu'on a vu hier, c'était quand même pas, c'était pas génialissime. On est content de retrouver cette finale parce que c'est vraiment le match rêvé. Voilà, c'est une affiche extraordinaire. Mais après, quand tu prends un petit peu de recul, tu t'aperçois quand même que ça n'a pas été un Sénégal. C'est pas le meilleur Sénégal qu'on ait vu au cours des deux dernières années. N'empêche, ils ont fait le boulot et c'est ça le plus important.
Qu'est-ce qu'il leur manquerait, Franck? Puisque vous parlez d'un bon collectif qui devrait pouvoir mieux jouer.
Moi en fait, ce que je regarde, je prends l'Algérie, une photographie de l'Algérie, un instantané. Ce que j'aime avec cette équipe d'Algérie, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas une juxtaposition, si vous voulez, d'individualité. Quand vous les voyez évoluer, mais ne serait-ce que quelques minutes, vous avez compris que c'est vraiment une équipe, un commando, quoi. Et ça transpirait dès les matchs de préparation, dès les éliminatoires.
Mais d'ailleurs,
avec cette équipe
on a
du Sénégal,
séduit.
C'est ça qui nous plaît, qui nous séduit, même dans des moments difficiles, même quand ils mettent des brins, et ça a été le cas contre la Côte d'Ivoire. Ça continue. Il y a quelque chose. Ils sont portés par ce lien invisible. Et ben, par moments, je l'ai pas forcément ressenti avec l'équipe du Sénégal. C'est pas dû à un manque d'expérience, parce que beaucoup étaient présents en Russie, au Mondial en Russie. Il y a encore ce petit truc qui leur manque. Mais encore une fois, Gilles, c'est vrai que on leur demande pas d'être spectaculaires, en vérité. On leur demande d'aller au bout de cette épopée. Et ils n'en sont plus éloignés. Alors après, tout ce que nous, on peut ressentir, finalement, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'eux sont en train de faire dans l'intimité de la tanière. Et je dois reconnaître quand même que j'avais des doutes avant le tournoi. Et ils sont évanouis parce qu'ils sont en finale. Ils sont en finale.
Ils y sont. Voilà. Ils sont au rendez-vous, effectivement. Alors revenons peut-être sur le fait de jeu de ce match, parce que je pense que nos camarades tout à l'heure le commentent tellement bien, et je suppose que vous avez aussi beaucoup de choses à dire. Ce penalty. Alors Nabil, est-ce que vous avez compris finalement
non,
ce qui s'est passé?
Non, je n'ai rien.
Parce que on rappelle à nos auditeurs comme
je
de tout.
Rien
à l'heure. on rappelle à nos auditeurs. Il y a ce. Alors là, pour le coup, c'est un corner. il y a un ballon détourné. C'est une touche.
C'est une touche.
Une touche, oui, sur le coin du terrain. Et le ballon est arrêté, détourné. Là, tout de suite, quelqu'un et surtout l'arbitre siffle tout de suite pénalty. Puis il va aller voir son écran de contrôle et finalement annuler le pénalty. Alors qu'on se dit là, ça aurait été le pénalty.
Ah bah encore plus que le premier.
Peut-être que ce serait pas le même qui aurait tiré. Et surtout, il y aurait eu une égalisation et donc sans doute des tirs au but.
Je voudrais féliciter cet arbitre remarquable. Pourquoi? Parce que face
arbitre
à une VAR,
éthiopien.
Parce que face à une VAR qui partait dans tous les sens, il a pris la mauvaise décision et je le voyais gesticuler en regardant l'écran et je disais ce monsieur a de la conscience et du talent professionnel et il a légitimement donc il s'est déjugé légitimement parce que ce pénalty n'existe pas. C'est
le
tout simplement dans les règles.
Ou pas?
Pardon?
Le premier qu'il a sifflé, il existe?
Alors, je vous parle de celui-là. Restons sur les faits.
Parce que s'il siffle pas celui-là, il faut pas siffler le premier.
Donc, j'ai pris les faits comme
et
je savais que...
Et il faut encore moins siffler celui de l'Algérie contre le Nigeria. Donc, à un moment, il faut être cohérent.
Nabil. C'est pas le même arbitre.
La technique de Nabil.
Non, mais moi, c'est une question de cohérence, mon cher ami. Non, mais moi, je suis pas partisan dans cette histoire.
Un tout petit peu quand même.
Non, mais si c'est de l'autre côté. J'en ai rien à tirer. Si c'est de l'autre côté.
Autant que Gilles. Autant que Gilles.
Si c'est de l'autre côté.
Moi, je me reconnais.
Voilà, parce qu'au niveau de la
défense. Attendez, Nabil. Vociférer, laissez-moi vous lire les règles.
Allez-y.
D'accord? Je les ai recopiées pour vous.
Mais date de quelle année, Gilles?
C'est une partie. Arrêtez, c'est une partie de la loi 12 qui concerne les mains. Nouveau règlement. Un joueur ne sera normalement pas pénalisé lorsque le ballon touche son corps si le ballon a rebondi depuis une autre partie de son corps ou de celui d'un de ses coéquipiers, le contact avec le ballon étant alors presque impossible à éviter. Voilà, c'est exactement le cas. C'est un de ses coéquipiers, ça rebondit sur lui, donc il n'y a
sauf
pas
que
main.
Ils peuvent continuer l'action derrière les
Tunisiens.
Il annule une action en touchant le ballon, en fait. Il annule l'intentionnalité. Qui tient cette position.
Mais parce que je suis le seul à avoir lu les textes, visiblement.
Sauf que je doute de votre intellectuel sur ce coin-là.
Vous doutez de ma lecture des textes.
Non, autant là, j'entends ce que vous dites, Gilles.
C'est pas ce que je dis, les textes.
Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est la cohérence et le sentiment d'injustice que peuvent ressentir. C'est des Tunisiens, mais ça aurait pu être des Nigériens, ça aurait pu être des Guinéens, ça aurait pu être des Sénégalais. Également. Mais... C'est ça le souci. Et puis encore plus à la lecture de ce qui s'est passé sur le match entre l'Algérie et le Nigeria, on ne comprend rien
là, vous comprenez,
aux décisions.
Ça vient d'un de ses coéquipiers et ça touche sa main, il ne peut pas l'éviter.
On est dans un monde où on ne siffle pas pénalty pour la Tunisie à 18h sur une situation qui est encore aussi évidente que celle du Nigeria-Algérie. C'est tout. Voilà. Il y a un problème de cohérence et de suspicion.
Donc, on n'a pas compris. Franck, vous avez mieux compris.
Bon. Ah, mais si, je vous l'ai lu les textes.
Non,
ça, c'est pas gentil.
Non, ils vous embrouillent. C'est pas la même chose.
Venant de vous. Ils vous embrouillent.
N'essayez pas d'embrouiller non plus nos auditeurs. Ce qui est certain, c'est que je comprends pas les désignations. Parce que c'est le même monsieur qui oublie un pénalty pour la Côte d'Ivoire 4 jours auparavant lors du quart de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. C'est le même. Mais enfin, c'est pas grave. Bon, mettons qu'il ait été frappé de cécité partielle à ce moment-là. En tout cas, il est récompensé. C'est le même arbitre, souvenez-vous, qui était sur la finale de la Coupe de la Confédération entre le Zamalek et Berkane. D'accord? Donc, il traîne quelques casseroles. À un moment donné, ça fait quand même un petit peu lourd derrière. Il n'empêche, la Confédération africaine continue de l'utiliser et lui tresser des lauriers. Voilà. Donc, c'est bien. Peut-être on va le retrouver en finale, cela dit, hein.
Non, j'espère pas.
On sait pas. Hein. S'il a fait l'ennemi, non.
Mais vous êtes
terrible parce que je vous lis la loi et malgré ça, vous contestez. C'est fou, c'est le règlement.
Mais non, mais c'est de l'interprétation.
Ça vient d'un coéquipier.
Peu importe, parce que à l'arrivée, voilà, le Sénégalais, tout ce qu'on peut dire ne changera rien. Il a pris sa décision. Il s'est, comme l'a dit Gilles, il s'est déjugé. C'est lui qui est sans obstacle, Annie. Parce que c'est
non,
ça.
Non,
qu'on
mais je suis d'accord
auditeurs.
Avec vous.
Il n'a pas d'obstacle. C'est-à-dire que c'est la distance
entre lui. C'est pour ça qu'on
lui...
a eu du mal à comprendre, même si on a lu le texte, on a du mal à comprendre le comportement de l'arbitre.
Ouais,
c'est
la distance entre l'Éthiopien Bamlak.
On le voit.
Et Ganagay, c'est la même qu'entre Gilles et moi en ce moment. Il y a à peu près cette distance-là. Il n'a pas d'obstacle. Le joueur qui touche le ballon de la main, et il n'a pas la main encore une fois, mais c'est bien, c'est pas évoqué dans le truc. Il a un joueur qui est entre lui et celui qui a lancé le ballon. C'est-à-dire que, en fait, en le touchant, alors, intentionnel, pas intentionnel,
ça n'existe
on s'en
plus.
Fout,
ça
voilà,
n'existe ça plus.
Le gars n'aura pas le ballon puisque, de toute façon, il a été touché.
Bon, on va continuer.
Mais écoutons, on va écouter
Naïm Sliti, l'un des joueurs vaincus dans cette histoire, puisqu'il est tunisien. La Tunisie qui a cru à sa chance, mais Naïm Sliti se résigne au micro d'Éric Mamrut.
C'est difficile à avaler parce qu'on faisait jeu égal avec le Sénégal et on prend un but bête. On est très déçus, très frustrés, c'est normal. On a eu le pénalty, on a eu des occasions aussi. Voilà, fallait être plus tueur, plus réaliste. Et voilà, c'est le football, c'est comme ça.
On se pute. Voilà pour ce qui est de Naïm Sliti.
Vous auriez pu passer le micro à Alain Giresse qui vous aurait dit la même chose et en des termes un petit peu moins exquis, je pense, parce que il est lui il est carrément de l'autre côté, mais il s'interrogeait quoi.
Plus régime, bien sûr, voilà, en disant bon malheureusement comme ça c'est le football, c'est-à-dire il peut y avoir fois des choses.
Si le Sénégal fait le boulot en première période.
On en parle plus.
Tout ça, c'est de l'anecdotique.
Bien sûr.
Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont 50 occasions, ils les mettent pas au fond.
Exactement.
Et en fait,
la Tunisie non plus, d'ailleurs.
La Tunisie en a eu très peu, c'est sûr.
Elle en a eu quelques-unes et qu'elle a loupé aussi. On va l'écouter, Alain Giresse, mais on va l'écouter sur autre chose parce que Alain Giresse, il était un peu écartelé à la fin du match et on l'a très bien vu. Non seulement réconforter ses joueurs parce qu'évidemment, il venait d'être éliminé, mais aussi en allant
féliciter. C'est la plus belle du match. Parce que pour le reste.
Il allait réconforter ses joueurs et ses grands joueurs. Parce que Giresse, il est tout petit et il allait les réconforter. Il les entraînait il y a encore 2 ans. Et en conférence de presse, écoutez, ce cri du cœur de Gigi, comme on l'appelait, l'ancien camarade de jeu de Michel Platini, pour Aliou Cissé. Et c'est au micro de Frédéric Suto.
Et maintenant, ce que je voudrais dire pour Aliou, que je suis son premier supporter, évidemment. C'est un joueur qui était en finale en 2002. Il va devenir un entraîneur qui va dépasser le joueur qu'il était. Parce qu'ils vont gagner cette CAN. C'est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur.
Merci beaucoup, Alain.
Alors il va dépasser, il fait un pari sur l'avenir là. Évidemment, il lui souhaite de.
Ça a été son joueur pendant quelques semaines ou quelques mois, Gilles, hein, c'est ça. C'est comment Gigi est sur le banc du PSG, quoi, même pas le premier trimestre.
Ça se passe assez mal, effectivement.
Ouais, voilà. Mais c'est l'année ou la saison où Aliou débarque au Paris Saint-Germain.
Oui, il est limogé très rapidement.
Mais ils se connaissent quand même un petit peu.
Il m'a gardé beaucoup de rancune d'ailleurs. Moi, je l'avais beaucoup critiqué à l'époque, et c'est vrai que. Après, je trouve qu'en tant que sélectionneur, il a fait un super parcours. Et au Sénégal, il s'est écharpé avec des journalistes, mais pas avec les joueurs, globalement. Et
Avec la population, je pense que les gens...
Ni même avec le peuple. Ouais, mais bon, voilà. Là-bas, les médias sont assez volcaniques. Il a vu de très mauvais rapports.
On peut dire. Hein. Ouais. On a et vu hier en tribune. On a vu des images en tribune.
Ouais. Et là, il a gardé vraiment de super contacts. Et c'est vrai que la manière dont il allait féliciter les joueurs, ça lui faisait passer sa colère. On aurait dit une sorte de sage, un petit peu, qui intronisait les joueurs avec lesquels il
est. Au final, le bilan est quand même bon pour Alain Giresse. On peut toujours discuter du contenu, mais cette équipe tunisienne, elle est dans le dernier carré.
C'était leur objectif.
Il l'avait dit d'ailleurs.
Très sincèrement, demi-finale. C'est un peu comme dans l'Agence Touriste, hein, jusqu'à la prolongation. C'était un plan qui se déroulait sans accroc pour les Tunisiens qui étaient en train de pousser ce Sénégal dans ses derniers tranchements et pourquoi pas dans une série de tirs au but à venir comme ils avaient fait face aux Ghanéens. Les Tunisiens, ils sont rationnels, ils optimisent leurs moyens.
Je pense qu'ils pouvaient pas faire.
Ils pouvaient pas faire.
Plus que ce qu'ils ont proposé.
Mais ils étaient pas loin de.
Ce qui est triste. Ce qui est triste, peut-être, c'est le début de rédemption de Moïse Hassen pendant le match où il arrête ce penalty et il l'arrête super bien.
Il
a bien compris. Il a bien compris ce qui va se passer et il va vraiment chercher très loin.
Mm-hmm.
Et à côté de ça, il se déchire parce que contrairement à ce qu'on entend dans le commentaire de RFI, s'il avait cherché à le boxer, il l'aurait boxé. Non, il avait cherché plutôt à le capter.
Oui.
Et c'est ça l'erreur technique de Moïse, c'est d'avoir sur ce coup franc qui est un centre. Être allé vers le ballon et il s'est trouvé parce qu'il n'a justement pas cherché à le boxer. Alors qu'il a la longe, il a tout, il a la taille et il avait su le faire auparavant. Et malheureusement, c'est pas sa première bévue dans le tournoi.
Tout à fait.
On en aura beaucoup parlé d'ailleurs de ce gardien. On se souvient du changement au moment des tirs au but et
tout
ça.
En Coupe du Monde en Russie.
Exactement. Quand il était blessé.
C'est vraiment triste.
Rendez-vous donc pour ce qui est du Sénégal vendredi soir. Ça sera à 21h, 19h en temps universel et ça sera évidemment en direct sur RFI. Mais il y avait une autre demi-finale et on y vient.
Mahrez en position d'ailier droit fixe le défenseur Collins, passement de jambe une fois, deux fois, centre en retrait. Oh, le ballon est touché, le but! Autogol contre son camp sur ce centre débordement de Mahrez. Ouais. C'est Trostekong qui a vu le ballon rebondir dans ses jambes, dans ses tibias, je ne sais pas.
Oui.
Pas de réussite du tout pour les Nigérians qui encaissent un but bêtement et qui sont menés donc à la 40e minute par l'Algérie.
Ce serait sur la main de Mandiri dont on a parlé en fait.
Ouais.
Et donc il y aurait pénalty pour le Nigeria et ça relancerait complètement le suspense de cette partie.
Annoncer sa décision. Qu'est-ce qu'il va décider? Il décide les grands pénalty.
Allez,
Diallo, il en est déjà à 3 buts dans cette Coupe d'Afrique. Il va prendre son élan, il va frapper du pied droit. C'est contre-pied parfait, l'égalisation du Nigeria.
La faute
nigériane à l'entrée de la surface. Allez, Mahrez qui se prépare. Avec son pied gauche, il peut enrouler éventuellement Riyad Mahrez. C'est parti, c'est frappé, c'est dedans,
c'est dedans.
Et c'est dedans. Quel coup franc de Riyad Mahrez qui bat Akpeyi sur sa droite. Quel scénario pour l'Algérie. Le but à la dernière seconde du temps additionnel. 2-1 pour l'Algérie.
Et c'est terminé. Et l'Algérie est en finale de la Coupe d'Afrique. Ce sera Algérie-Sénégal.
Vous avez un supporter. Christophe Jousset, Antoine Grenier et Joseph-Antoine Bell vous ont donc fait vivre hier soir cette deuxième demi-finale. Un match haletant et puis ce coup de théâtre, ce coup franc parfait de Riyad Mahrez, le joueur le plus étoilé sans doute de cette équipe, hein, Nabil, parce que c'est à la fois joueur de Première Ligue, il avait été meilleur joueur de Première Ligue en 2016
avec
Leicester City est champion d'Angleterre, et ensuite eh bien, il joue avec Manchester City et Pep Guardiola depuis deux saisons, et c'est vrai qu'il a réussi à faire son trou depuis deux saisons, hein. Une et demie en fait, c'est ça, dans cette équipe. Bon, il a décidé en tout cas de la qualification.
Oui.
C'est un habitué de ses beaux gestes.
Ouais, c'est un joueur qui est, c'est un joueur de coup, c'est un joueur talentueux. Vous avez raison de rappeler qu'il avait été MVP du championnat d'Angleterre avec Leicester. Il avait été, comme on dit, clutch, c'est-à-dire déterminant sur les gros matchs, et avec cette sélection algérienne, Mahrez à l'aise s'est mué un peu comme un leader positif, un patron. Il a été responsabilisé. On lui a donné le capitanat, même s'il y avait des doutes avant la compétition. Et finalement, c'est plutôt du soft power. On sent que c'est un leader cool, entre guillemets, respecté, qui a une certaine légitimité parce qu'il joue à Manchester City. Mais en même temps, la chance de cette équipe algérienne, c'est, même si là, pour le coup, ça restera un des hauts faits de cette CAN et une des images de cette CAN et un des
buts. Et incroyable parce que c'était à quelques secondes d'un début de prolongation.
Voilà.
Donc ça faisait un peu but en or.
Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que a dit Franck, c'est que cette équipe d'Algérie, c'est avant tout une équipe, même si Mahrez est la valeur ajoutée, mais la lumière, entre guillemets, elle peut venir n'importe où, même de l'autre côté. Youssef Belaïli, de l'autre côté, le numéro 8, fait une CAN absolument magnifique, étonnante pour un garçon qui a aussi une trajectoire très atypique. Elle attaque et elle défend ensemble, et parfois Belaïli, ou comme Mahrez hier, finissent par faire la différence.
Ce coup franc, Gilles, c'était quelque chose à la fois beau, et en plus on voit cette défense nigériane qui sait pas trop s'y prendre alors qu'on est dans les dernières secondes d'un match, quoi.
Magique, c'est très bien tiré parce que en fait la défense ne sait pas qui va frapper exactement.
Je le savais, hein.
Oui, mais
tout le monde le sait. Hein.
Mais eux, visiblement, ils hésitent.
Ah bah, il y a
sur
numéro
le placement.
7, il s'appelle Riyad Mahrez.
Oui,
il est gaucher, donc pour pas savoir que c'est lui qui va frapper.
Ils sont mal placés. Ils sont mal placés. Entre le mur et exactement.
C'est Akpeyi qui les met dedans.
Exactement, entre le mur et le gardien, il y a un mauvais placement, une mauvaise. Oui, elle est belle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ajoute à la panoplie de l'Algérie. Il y a effectivement cet élan magistral, à l'image de l'élan populaire. Il y a une âme dans cette équipe. Il y a quelque chose de formidable. Et là, vous avez en plus la décision qui peut se faire sur un éclat extraordinaire d'un joueur. On dit aux grands joueurs les grands matchs. Ben là, c'était le cas. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que la toile de l'Algérie s'étend. Et on a l'impression qu'ils ont enveloppé la CAN d'une sorte d'aura. Tout le monde a envie de succomber à ce charme fou de l'Algérie. Il faudra vraiment que le Sénégal soit grand pour gagner.
Franck, un petit mot sur Mahrez ?
Franchement, il était éclatant hier soir. C'est lui l'homme du match.
Le capitaine.
Je crois même qu'il a reçu le trophée. Je pense qu'il s'en fout. Même s'il pense aussi. Parce que le plus important pour lui, c'est d'aller chercher vendredi
la canne,
soir.
Bien sûr.
Voilà. Mais voilà, il porte peut-être pas le numéro 10, puisque c'est Ferrouli dans cette équipe qui arbore ce fameux numéro 10 dans l'équipe d'Algérie. Celui des grands, des Moussa Saïb, des Rabah Madjer, Belloumi et d'autres. Il y a toute une hiérarchie, toute une histoire derrière ce rôle. Mais voilà, il l'endosse tellement bien. Et puis, puisque comment on est là sur le plateau de RFI, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Nabil, parce que il y a 5-6 ans en arrière, ben le petit gars Mahrez, on ne le connaissait pas, et lui à ce moment-là il le suivait déjà, et ils nous en parlaient, et franchement on rigolait bien hein, quand il quitte le Havre pour aller à Leicester en D2 anglaise.
Ouais, je me souviens, ouais,
et voilà, et on rigolait parce qu'on se disait, mais comment croira ce garçon qui avait des muscles tout fins et tout, mais comment est-ce qu'il va faire une carrière aujourd'hui, il va nous offrir un duel extraordinaire contre Sadio Mané, parce que c'est ça aussi, hein. On est dans une histoire de symbole aussi. Vous avez Bien Sadio sûr. D'un côté, mm-hmm. Qui est en Angleterre, qui est roi d'Europe, et puis vous avez le roi d'Angleterre, même s'il a pas forcément beaucoup joué, et il se retrouve dans cette finale, c'est magique. Franchement, qu'on a vécu hier soir, c'était
après bon. Mahrez, il y a aussi une histoire humaine très rapidement. Il a perdu son papa assez jeune, à qui il avait fait la promesse de jouer pour l'Algérie, et sa maman, elle, est marocaine. Et donc, comme Mehdi Benassia avait le choix entre l'Algérie, le Maroc et éventuellement la France, mais la France, il n'était pas dans les plans puisqu'il a, il a une éclosion assez tardive avec une trajectoire très atypique. C'est aussi ça, Riyad Mahrez.
Effectivement, il y a beaucoup de joueurs à la CAN comme ça.
Après, justement, sur la construction de ces deux équipes,
on va y venir, Gilles. Juste, je voudrais qu'on aille du côté d'Alger, parce que à Alger, ce coup franc et ce but marqué par Mahrez a été absolument incroyable. Alors, évidemment, une bien belle nouvelle pour le peuple algérien, et c'était l'explosion de joie donc au stade Wanyouni, je le dis bien, Wanyouni d'Alger, où le match donc était diffusé hier soir sur un écran géant et devant des milliers de personnes. Explosion de joie que vous pouvez voir derrière nous, hein, dont les images ont été diffusées un peu partout. Ouais. C'est vrai que c'était la fête du côté d'Alger et la fête dans tous les quartiers de la capitale. Jamel Belmadi, on va l'écouter parce que sur ce match, c'est vrai que ce coup, disons, à la fin du match, eh bien, rehausse évidemment tout le travail fait. Jamel Belmadi, le sélectionneur des Algériens.
Bien sûr, sentiment d'injustice. Sentiment, peut-être à tort, hein. Il faudrait qu'on revoie les images. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on a ressenti, un sentiment d'injustice. On aurait pu baisser les bras, on a levé la tête, on a été jusqu'au bout, on n'a pas voulu. C'est pas qu'on n'a pas voulu aller aux prolongations. S'il aurait fallu aller aux prolongations, on aurait joué au maximum que l'on peut. Mais les joueurs ont voulu gagner le match avant. Et ils sont repartis, on s'est créé des situations, je dis peut-être pas des situations franches, mais bon, s'il y avait des dernières passes, des avant-dernières passes qui ont été mieux faites, ça aurait pu être des situations franches. Donc les joueurs sont revenus dans le match et voilà, sont restés, ils ont cru jusqu'au bout.
Quel match hier qui a fait exploser de joie toute la ville d'Alger et sûrement beaucoup d'autres villes d'Algérie. Gilles ?
C'est un match formidable et on parlait beaucoup ici de cette équipe d'Algérie qui balbutiait, qui était en reconstruction. Mais
moi, je me souviens très bien qu'au début de la CAN, on la mettait pas
mais
parmi
oui.
les favoris.
Outsider.
En fait, c'est une équipe qui est pas qui a assez de talent pour pas être outsider, mais qui a tellement d'incertitudes pour pas être favorite, quoi. En fait, en gros, elle est entre les deux, quoi.
Et il n'arrivait jamais à se reconstruire. Et là, je trouve qu'il y a une sorte de morale. Alors, il faut pas en tirer une morale absolue, mais quand même, deux sélectionneurs nationaux qui arrivent à mener des équipes très compliquées. On sait très bien, on en discute souvent avec Nabil, l'Algérie, c'est une sélection éminemment politique avec des influences. Donc, le coach l'a compris.
Sauf que là, il n'y en aura pas de récupération de politique avec la situation du pays, quoi.
Oui, mais c'est une sélection qui nécessite une compréhension politique, avec beaucoup d'influence.
Il y a un environnement compliqué.
Et au Sénégal, c'est pas simple non plus. Une pression médiatique qu'il faut dompter, une attente, une passion, le poids de l'histoire. Donc deux sélectionneurs nationaux, peut-être que c'est effectivement la bonne recette pour les sélections africaines.
Mm-hmm. En tout cas, il n'y en a pas eu bien souvent parce que je me suis plongé dans les.
Une seule fois, je crois.
T'as eu en 98. En 98, au Burkina Faso, il y avait Gohari pour l'Égypte et en face, il y avait Jomo Sono pour l'Afrique Sud. Donc voilà à peu près depuis 98. Mais sinon, il faut monter à 78, la finale entre le Ghana et l'Ouganda, où il y avait Osam Dwodu pour le Ghana, pour les Black Stars, et pour les Cranes d'Ouganda, les Grues, c'était Peter Oké. Donc c'est vrai qu'en en 41 ans, t'en as eu trois fois des sélectionneurs issus, enfin nationaux, comme le dit Gilles.
Encore que voilà, pour Belmadi et pour Aliou Cissé, bon, c'est aussi les charmes de la binationalité, puisqu'ils ont un vécu et une formation française, et ça témoigne aussi de l'intelligence d'avoir les deux logiciels au final, quoi, puisqu'ils ont le logiciel des joueurs européens, puisque eux-mêmes ont joué en Europe, et en même temps, ils ont le logiciel africains puisqu'ils ont été chacun
culturel.
Oui, chacun joueur de leur sélection nationale.
Et capitaine de leur sélection nationale.
En 2004, c'est le capitaine de l'Algérie.
Mm-hmm. Voilà. Et en 2002, Aliou Cissé, quart de finaliste.
Complètement.
Et,
ouais.
Donc c'est une troisième voie,
en fait. Finaliste de la CAN.
C'est une troisième voie, c'est une voie hybride.
Et c'est très, ouais, c'est très intéressant ce côté hybride. Alors, on parlait de la politique qui entoure la sélection algérienne, ouais. Et elle est jamais très loin. Il y a énormément de supporters qui étaient venus d'Algérie, dans des vols affrétés, jusqu'au Caire, heureusement, pour remplir un peu les stades. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces supporters, juste avant de se rendre au stade, ils se sont rendus aux pyramides, et du haut des pyramides, ils ont crié, justement, le terme, voilà, qu'ils s'en aillent tous. Et ça, c'était un peu pour contrer aussi une espèce d'opération de communication des tenants du régime actuel, et qui auraient peut-être voulu dire, nous, on les a envoyés. Ben non, pas du tout. Ils étaient toujours là, ces manifestants.
Ouais, ils dorment pas, comme on dit.
Exactement. Et puis on va entendre, eh bien, la joie des supporters du Caire dans le stade, donc les Algériens qui étaient au Caire et avec notre envoyé spécial toujours Dominique Fian.
Jamel a fait un super boulot. Il a redonné la chance au logo. Et franchement, c'est magnifique avec tous ces supporters qui sont là, des 48 wilayas. C'est magnifique. Et comme on dit, Mazel Sénégal.
Ça représente beaucoup là, surtout maintenant chez nous, on est avec le mouvement populaire, ça va juste nous changer quoi. Tout le monde va reprendre sa place, ça va ramener beaucoup de bonheur au peuple algérien et au peuple algérien. Donc, tout le monde aussi, on a besoin de cette victoire.
T'inquiète.
On va prendre la Coupe d'Afrique, on va la prendre, on va la ramener en Algérie.
Jamel a fait un super boulot, il a redonné la chanson.
Là aussi, ils veulent ramener la coupe à la maison. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une coupe et deux équipes qui la veulent et qui la mériteraient, on dirait.
Le symbole est fort, hein, de voir en fait ces supporters algériens venus à la fois d'Algérie, mais aussi de France et d'Europe, supporters de l'équipe nationale, et ça se passe au Caire. Quand on connaît les relations tendues entre Algériens et Égyptiens, ouais. Il y a une symbolique forte.
Et Nabil, une petite anecdote amusante, le premier personnage qu'on voit dans le reportage de Dominique.
C'est un ami à moi, un gars, non mais attendez, c'est un mec qui est extraordinaire.
Qu'il était là-bas.
Il s'appelle Mohamed Baya, c'est un leader des supporters algériens en France qui habite à Bagnolet, et c'est un dingue des joueurs locaux, et notamment il a toujours estimé que les joueurs comme Bounedjah, Belaïli, Slimani, Soudani étaient sous-cotés et qu'on préférait les joueurs qui étaient formés en France. Et ce soir, c'est aussi, et c'est important à rappeler du côté algérien, c'est pas qu'une sélection nationale de joueurs nés en France, c'est aussi Belaïli, Bounedjah, Benlamri, c'est aussi la formation algérienne. Voilà.
Gilles, pour terminer.
Il y a toujours une mystique dans le sport. Et là, la mystique, elle est du côté algérien. Vous avez ce peuple, cette victoire qu'ils veulent pour ce qui se passe en Algérie. Ouais. Donc, il y a quelque chose de fou qui les porte. Et au Sénégal, c'est l'histoire qui les porte. Vaincre enfin la malédiction, arriver à gagner une fois. C'est pour ça, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que ces équipes
qui
sont en finale.
Qui aura la malédiction du pharaon,
mais
à votre
avis. Exactement. Elles étaient portées par des forces qui les dépassent.
Ouais. Ça, c'est intéressant.
À lire dans le prochain.
Alors, juste Mortimer.
Juste à déplorer en France les incidents qui émaillent les manifestations de gens, je sais même pas si on peut les appeler supporters,
ouais,
mais
en des décérébrés, des dégénérés qui se greffent à une manifestation de joie pour malheureusement gâcher la fête avec des actes de vandalisme qui n'ont rien à faire là.
Discréditer quelque part aussi.
Exactement.
Une communauté qui n'a pas besoin de ça.
Exactement.
Il ne faut pas faire d'amalgame.
Ouais, mais
non, bien entendu, absolument. C'est pour ça que je les appelle absolument pas supporters.
Vous avez le discernement pour ne pas faire l'amalgame, mais malheureusement, ceux qui veulent le faire, ils le feront.
Ouais. Et il y a eu 300 interpellations jusqu'à présent. Espérons que vendredi, quoi qu'il advienne, eh bien, tout se passera bien. Franck, un petit mot encore.
Ouais, dernière chose sur les sélectionneurs, puisqu'il y a quelques instants, on faisait une parenthèse sur les sélectionneurs. 43 ans, les deux.
Voilà. Non, mais ils sont nés à quelques jours d'écart à Champigny-sur-Marne. C'est très drôle.
Ils ont joué au PSG, les deux, parce que Jamel, en fait, il a joué au Paris Saint-Germain. Il a été lancé en Ligue 1 12 minutes par Luis Fernandez. Pour la petite anecdote, et ensuite il est parti à Martigues et il a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il a joué notamment avec Georges Weah.
Mmh. Mais on y viendra de toute façon au portrait croisé de ces sélectionneurs des deux équipes qualifiées pour la finale. Pour le moment, messieurs, un petit break dans cette CAN et je vous propose de faire un tour au camp des Loges si vous voulez bien aller courir vous aussi.
Oui,
exactement. Vous l'avez croisé ce matin, la
non,
star
Non, à la boulangerie, je l'ai pas croisé à Saint-Germain.
En même temps, c'est difficile de reconnaître avec sa nouvelle coupe de cheveux et Choupo-Moting.
C'est pas faux, ouais. Tout jaune. Jaune.
On y va tout de suite.
Et moi.
Il est donc bien là, il est revenu au camp des loges et il a participé à l'entraînement ce matin. Neymar, bon élève, le Brésilien, descendu de son 4x4 noir avec donc son nouveau look, un peu peroxydé, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est oui, ça.
La chevelure blonde. Alors bon, c'est peut-être pour noyer un peu l'ambiance pesante qu'il y a autour de lui. Au cours du week-end, il avait fait quelques clins d'œil appuyés du côté du FC Barcelone. Il a surtout remué le couteau dans la plaie. Il a répondu notamment à une question sur le site américain Oh My Goal, c'est un peu comme Periscope en France. La question était: quel est votre meilleur souvenir de vestiaire? Réponse dans la voix de Neymar qu'on va entendre. Il parle cette fois en espagnol.
Creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos.
Voilà, il est tout seul devant une petite caméra et il répond et il dit, eh ben, quand nous avons gagné de Paris avec Barcelone, contre Paris donc, notre vestiaire était fou de joie, on était très heureux, une des plus belles sensations pour nous tous. Gilles, vous pensez qu'il a voulu remuer le couteau dans la plaie ou c'est une maladresse voulue?
C'est voulu, c'est une stratégie, pour créer la rupture. Ce que j'aime pas, c'est, parfois chez Neymar, c'est qu'il n'assume pas. Le lendemain, il fait un communiqué,
son
staff, voilà, en disant, oui, alors on n'a pas voulu, mais si, il a voulu dire, mon cœur est à Barcelone, mes meilleurs souvenirs sont à Barcelone et il veut cracher sur tout ce qu'il a connu au PSG. Ça va être difficile pour lui parce que Leonardo est en train de lui faire comprendre que Barcelone est timide, n'a pas les moyens, n'est pas vraiment venu. Donc il va avoir une stratégie du PSG de tenter de lui expliquer qu'il faut rester. Comme il l'accepte pas, je sais pas si le bras de fer va être public, mais dans les têtes, ça va laisser de toute façon des séquelles insurmontables.
Moi, je suis d'accord.
Nabil?
Non, vas-y,
Nabil.
Moi, je suis d'accord avec Gilles. Il crée les conditions psychologiques de la rupture. Dans le contexte actuel, évidemment, il sait très bien ce que ça veut dire. Son employeur, c'est le Paris Saint-Germain. Il explique qu'en fait, son plus beau souvenir, c'est d'avoir humilié son employeur, pour dire clairement les choses. Alors, il a le droit de le penser, mais pas le dire dans ce contexte-là, ni dans ce timing-là, puisque émotionnellement, il a le droit de penser que c'est son plus grand souvenir footballistique. Mais il sait très bien qu'il y a, voilà, il y a une situation. Et je rejoins Gilles sur le fait que je pense que le principal, il est plus en position de force. Il a 2 ans de plus. Il a enchaîné des blessures. C'est un joueur absolument fantastique. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Mais il y a une équation économique aujourd'hui qui est difficile à résoudre en termes d'indemnité de transfert, en termes également de charges salariales. Quel club peut l'acheter aujourd'hui? Clairement, le Real, ils n'ont pas l'air de vouloir. Le Barça, je ne crois pas qu'ils aient les moyens. Ensuite, il y a des clubs de Première Ligue. Je ne suis pas persuadé qu'il ait envie d'aller en Première Ligue.
Je ne crois pas qu'il ait envie des brumes anglaises. Franck,
pas mieux.
Il se perd, notre Neymar.
Bah, pour moi, il est perdu déjà, parce que être aussi souvent blessé, et puis... Moi, je suis très peu présent, je vois très peu les matchs, je suis
Pas
des princes. Non, mais au-delà de ça, je suis vraiment très éloigné de cette situation-là. Mais je suis d'accord avec Nabil quand il dit, voilà, le message qu'il renvoie est totalement négatif pour son employeur. Et puis,
Maladresses pour une star de cette envergure.
C'est là où Gilles aussi a raison. C'est-à-dire que ça fait partie d'une stratégie. Avec lui, de toute façon, et surtout son staff, il peut s'agir que d'une stratégie, quoi. Voilà.
Il est de moins en moins joueur de foot, Annie. Imaginez que ça fait 2 ans qu'il est en France ou plus. Il n'a accordé aucune interview à un média français. Alors, je dis pas que je suis pas en train de pleurer dans les chaumières. Ça veut dire qu'il y a aussi, il n'est pas ici, quoi, en fait.
Non.
Gilles?
Leonardo, quand il était allé à Milan, il avait fait la même chose. Il était au PSG. Moi, je l'avais vu, j'avais fait une interview. Il m'avait dit, il faut que Milan se dépêche. Là, il a fait pareil avec Barcelone. Mais comme il n'y a pas de répondant du côté de Barcelone, dans quelques jours, si ça continue, Leonardo, il va dire, les portes sont fermées.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International aujourd'hui. Merci à tous. On vous rappelle, la finale, c'est Sénégal-Algérie et ça sera vendredi. Merci à tous et à demain.